Io direi di lasciare lo spazio alle domande, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, da approfondire, eccetera. Prego.
Une question est liée aux sanctions.
Et la demande, però, amara, cosa ne pensa di quello che l'Europa ha fatto recentissimamente rispetto alla conferenza
di sécurité de l'Europe a fait sur Durban 2 pour changer les documents de Durban 2.
La seconda
è la question, la deuxième question. En ce qui concerne la politique israélienne, elle a été, récemment en Palestine, aurait eu l'envie de poser la même question à des Palestiniens qu'elle a rencontrés, qui est liée aux élections israéliennes. C'est un nouveau gouvernement qui voit une participation étroite de Lieberman,
que tu connais.
Tu penses
qu'il
va changer la situation en pire? Et la réponse qu'elle a reçue a été parmi les Palestiniens, pour nous ne change rien. Tu ne crois pas que Michel, tu ne crois pas que Lieberman aux affaires étrangères, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Je vampire aussi la politique étrangère australienne.
Je vais répondre tout de suite aux deux questions. Par rapport à Durban 2, c'est-à-dire la conférence des Nations Unies sur la question du racisme qui doit être à Genève dans un mois et demi.
Per rispondere immediatamente alle due domande, per quanto riguarda la riunione chiamata Durban 2 che si terrà a Ginevra fra poco.
La seule politique que pouvait suivre Israël par rapport à cette conférence, c'était de s'enfuir et d'essayer de provoquer le départ de maximum de pays amis à Israël que possible.
L'unica possibilità che Israele, di atteggiamento possibile di Israele verso questo tipo di conferenze, è quello di scappare e di fare in modo che la stessa scelta sia fatta da più stati possibili amici di Israele.
Tutte le convenzioni, e io parlo della conferenza dei Stati, non la conferenza delle ONG.
E parlo della conferenza degli Stati, non quella delle organizzazioni non governative.
Toutes les résolutions des Nations Unies, toutes les conventions internationales sur les questions de racisme et de discrimination mettent Israël au banc des accusés.
Et
pas seulement Israël, mais mettre aussi Israël au banc des accusés.
Qualunque convenzione, legge che riguardi il razzismo e
racisme aussi.
Che riguardi l'atteggiamento razzistico mette Israele, anche se non solo Israele, ma mette Israele sul banco degli imputati.
Que ce soit dans la relation vis-à-vis des Palestiniens des territoires occupés, que ce soit en relation vis-à-vis de la minorité palestinienne en Israël même, que ce soit par rapport à la diaspora des réfugiés palestiniens, Israël est en porte-à-faux et en opposition à toutes les normes des Nations Unies qui seront le cadre, légal, le cadre en termes de principes guide de la conférence de Genève, de Genève qu'on appelle Durban 2. Et c'est la raison pour laquelle Israël n'avait qu'une seule possibilité, c'est dire vous êtes des antisémites, on ne vient pas.
Et questo perché qualunque sia in relazione alla, in rapporto alla, alle, alle leggi che sta, all'atteggiamento di, alle cose che fa Israele nei confronti del, dei, dei palestinesi di Cisgiordania e Gaza, sia per quanto riguarda la, le cose imposte ai, ai profughi palestinesi fuori dalla Palestina, che siano gli arabi palestinesi rimasti all'interno del 48, tutto questo mette Israele è fuori da qualunque tipo di legge che regola a livello internazionale queste, queste questioni, e di conseguenza ha come unica possibilità quella di dire: voi siete antisemiti, io non ci vengo.
Par rapport aux élections israéliennes, je suis à moitié d'accord avec ce que vous dites.
E riguardo alle elezioni israeliane sono d'accordo a metà con quello che lei ha detto.
Je ne vois pas en quoi, et c'est pas Lieberman, je parle de façon générale, le gouvernement israélien de Netanyahou peut faire pire que les gouvernements précédents en termes de colonisation, en termes de reconnaissance ou de non-reconnaissance des Palestiniens, en termes de sabotage du processus qu'on appelle le processus de paix. Il n'y a aucun processus de paix. La colonisation roule comme dans du beurre sans arrêt. Je ne vois absolument aucun... comment on peut en faire plus.
Et riguardo à quello che nessun governo, penso, questo governo, e non mi riferisco solo a Lieberman ma anche a Netanyahu, non potrebbe far sicuramente peggio di quello che il governo precedente ha fatto in termini di distruzione. La colonizzazione marcia come a tamburo battente, e quindi non si vede come è possibile far di più rispetto a quello che è stato già fatto.
Par contre, ce gouvernement me fait peur en politique intérieure.
Invece, scusate, quello che mi spaventa sono gli effetti di le politiche che questo governo può fare a livello di politica interna.
En politique intérieure et plus particulièrement en ce qui concerne la population palestinienne d'Israël.
E in questo senso riguarda la politica alla popolazione palestinese israeliana.
En termes de législation, j'ai peur. Et pas seulement moi, mais aussi et peut-être plus encore en termes d'une légitimité donnée à un discours ouvertement ou encore plus ouvertement raciste, encore plus ouvertement menaçant par rapport à la population palestinienne et d'une façon plus générale par rapport aux libertés démocratiques qui existent encore en Israël.
E questo è un riferimento non solo io penso questo in termini di leggi, ma di un atteggiamento e di lasciar via libera ad un discorso ancora più apertamente razzista, e non solo riguardo a questa questione, ma anche riguardo alle regole elementari della democrazia all'interno del paese.
La plusieurs questions.
Tendenza, diciamo, un po' abbastanza internazionale a cercare di governare i popoli con la paura.
Il è una tendenza internazionale di essere di governare il popolo con le per. L'altra parte.
Dall'altra parte le politiche di aggressione spesso riescono a ottenere una
et mais d'ailleurs des politiques agressives souvent n'ont pas réussi à ne sont pas arrivés à faire la cohésion sociale. Par exemple, il parle de l'agression à Malvinas Falklands sur la tâche.
Comunque, ecco, voglio dire, anche in Italia lo spostamento a destra, comunque sia dal 2001 oggi, è stato ottenuto grazie esattamente alla campagna sostanziale di terrorismo, a campagne mediatiche che riescono comunque ad avere preso sotto la.
Ossia in Italia io a droite dell'opinione pubblica, soprattutto grazie a delle campagne mediatiche très agressive et raciste.
Qui jouait sur la peur.
Hein?
Ah, qui oui, quand même. Mi pare che da questo senso ciò che è avvenuto in Israele, con caratteristiche del tutto diverse, sia stato applicato in altri contesti sociali con diverso successo.
Il penso che il y a des similitudes aussi dans des contextes très différents avec ce qui s'est passé en Israël.
La seconda domanda.
La deuxième question.
È relativa a se si è detto che se ci fosse un movimento contro la barbarie come quella registrata appunto in Israele, sarebbe funzionale a alla riattivazione anche di una coscienza diversa all'interno della società israeliana.
Tu as dit que s'il y avait un mouvement en degré de faire pression réelle, il avait l'effet de réveiller la conscience israélienne.
Viceversa, credo che in Europa stiano agendo forze che vanno in direzione esattamente opposta, e in questo senso mi riferisco anche, è un po' come mia. Cosa su quale è stesso, però mi pare che per esempio l'apertura che la Chiesa Cattolica, in particolare il Papa, ha fatto nei confronti degli etiopiani sia un qualcosa che in qualche modo va.
Arriva, aspetta. Buonasera. Allora, il dico al contrario, il penso che hai una tendenza opposé à ce que tu qu'on peut penser
sur les pressions
malgré les mobilisations attends car il pense là il y a une fixation sur cela il a dit pas moi et sur la question de l'ouverture du Vatican par rapport à l'évêque de Février. Ok, vai.
Posizioni che credevamo superate, ma che non sono state, sappiamo, e da questo punto di vista mi pare che la destra potrebbe fare in questo senso un grosso favore a se ci fosse in pratica in Europa una rinascita forte dell'antisemitismo. Potrebbe in qualche modo essere una delegittimazione anche di una politica passata da quella che si fa.
De cela, de tout cela, il a, à son avis, la possibilité qu'une nouvelle vague d'antisémitisme peut renaître en Europe, et cela, évidemment, profite au gouvernement israélien.
Chiedevo se vuoi far subito la tua, così risponde insieme, eventualmente così.
Se un ruolo contrario al fatto che il progetto di disimpegno di Israele.
Non sto sentendo, è un problema serio. Se io non sento, lui non capisce.
Cosa pensi del ruolo di Egitto con la chiusura di confini con Gaza? Se è un ruolo contrario al ruolo che ha fatto Israele nel progetto di disimpegno di Gaza, è un ruolo contrario alla crescita di Hamas. Cosa pensa di lui?
La collaboration de l'Égypte avec Israël. Qu'est-ce que tu penses dans ce moment de la collaboration entre l'Égypte et Israël par rapport à tout ce que tu as dit aussi sur les frontières de Gaza, l'ouverture, la fermeture?
Ce n'est un autre, mettons anche questo insieme. Vai.
Ho letto a novembre che prima dell'operazione di Yom Kippur, nelle elezioni amministrative di Tel Aviv, candidato della sinistra ha preso incredibilmente per noi europei il 30%.
Il a lu che avant l'aggressione a Gaza, aux élections municipal, même, le candidat de gauche a pris encore de façon incroyable pour nous en Italie le 300%.
Prego. Mi verrebbe da pensare che questo indichi un forte malcontento sociale crescente in Israele tra tutti i settori, anche ebrei della popolazione.
E tout cela le pousse à penser qu'il y a bon de une satisfaction de population aussi, la partie juive n'est pas heureuse de la politique. Pardon, mais je suis allé à
tout de suite. Je suis d'accord avec la Rive, et tant plus in queste situazioni è importantissimo creare un nemico esterno che possa fungere da diversivo.
Il est tout à fait d'accord avec Enrico dans le sens qu'il pense que dans ces situations, dans ces cadres, c'est nécessaire de créer la figure de l'ennemi extérieur. Alors la question c'est
non c'è nulla di automatico tra,
il n'y a rien d'automatique entre crise sociale
et critique du sionisme
et donc réveil de conscience politique.
Però mais non ci può essere da qui una breccia per mais, una crisi, quel consenso di massa.
Mais c'est là per rappresenter une cassure dans de l'unité négative de l'opinion publique israélienne arrière son gouvernement dont il a parlé avant.
Direi di rispondere così almeno almeno.
Sei tu il presidente.
Sì, sì, infatti io direi di rispondere così almeno rispondiamo a questo fatto domanda.
Effectivement, le gouvernement égyptien, alors je réponds dans un autre ordre, le gouvernement égyptien, et j'ajouterai le gouvernement jordanien, et j'ajouterai même l'Arabie saoudite, sont confrontés avec Israël à un ennemi ou une menace, ou ce qu'ils perçoivent comme une menace commune.
E comincio a rispondere nel senso inverso, come sono poste le domande, come tempi, e partendo da quella sull'Egitto, a cui aggiungerei anche la Giordania e l'Arabia Saudita, che insieme ad Israele come dire, sono di fronte a qualcosa che comunque percepiscono come una minaccia.
Ils identifient pour des raisons diverses l'Iran comme la grande menace à leur pouvoir et se situent dans une perspective qui, elle, est parallèle à la perspective qui a été, en tous les cas jusqu'à présent, la perspective américano-israélienne d'une guerre ou d'un conflit, d'une tension avec l'Iran.
E questi stati arabi, quelli nominati prima, citati prima, insieme a, per ragioni differenti da quelle che sono quelle israeliane, identificano l'Iran come una possibile minaccia.
L'Iran e d'une façon générale ce qu'ils définissent comme le danger d'un fondamentalisme musulman, dont Hamas est aussi un élément.
E più in generale quello che loro definiscono il pericolo fondamentalista islamico di cui Hamas evidentemente dal loro punto fa parte, nella loro visione fa parte.
L'instrumentalisation de la peur, oui évidemment, et c'est, je dirais, un des moyens les plus efficaces de mener une politique, où qu'elle soit.
La manipolazione della paura è evidentemente uno degli strumenti più efficaci per condurre qualunque tipo di politica.
C'est ce qui permet un état d'exception ou de semi-exception dans tous les pays de la planète, ou quasiment.
È ciò che consente uno stato di emergenza in quasi tutti gli stati. Potrebbe essere questa una cosa che riguarda quasi tutti gli stati del pianeta.
L'ennemi peut être extérieur ou l'ennemi peut être intérieur.
Il nemico può essere esterno o interno.
On peut l'appeler criminalité. on peut l'appeler criminalité comme ennemi intérieur.
On peut
l'appeler les banlieues dangereuses.
Et si on peut définir la criminalité, si on peut définir la périphérie pericolosa.
Et en identifiant des ennemis, on permet d'avoir un soutien populaire assez important pour renforcer un appareil de répression et pour renforcer et pour détourner l'attention des véritables enjeux de société pour les couches populaires.
Et l'identificazione di un nemico sicuramente ha un ruolo, gioca un ruolo fondamentale per creare un consenso e anche un consolidamento degli apparati repressivi e di controllo e soprattutto serve come è usato per distrarre dai problemi più veri.
Barak, pour pouvoir lancer Ehud Barak, pour lancer cette recolonisation, cette reconquête, cette reprise en main de la Palestine, a dû inventer un ennemi. Et cet ennemi était le Yasser Arafat caché. Pas celui qu'on connaissait, qui a eu le prix Nobel de la paix, mais celui qui se cachait derrière le prix Nobel de la paix, qui voulait détruire Israël et qui justifiait une guerre préventive contre lui et contre les Palestiniens.
Ehud Barak, per poter lanciare la ricolonizzazione della Cisgiordania, si è dovuto inventare un nemico. Questo nemico era l'Arafat nascosto, non quello conosciuto al premio Nobel per la pace, ma quello che si nascondeva dietro al premio Nobel per la pace che voleva la distruzione di Israele.
Est-ce que l'Europe est menacée par une nouvelle vague d'antisémitisme? Toutes les enquêtes, les recherches par les institutions les plus respectables et respectées et institutionnelles, pas par une extrême gauche radicale et militante, affirment le contraire.
Et l'Europe est menacée d'une nouvelle ondata di antisemitismo. Tous les sondages faits par les institutions plus rappresentative, non quelle d'estrema sinistra, quelle istituzionali, dimostrano il contrario.
Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des explosions localisées ou voire même plus générales anti-juives sous forme de graffiti, sous forme d'agressions individuelles, souvent liées à ce qui se passe en Palestine.
Questo non impedisce che ci possano essere dei momenti di esplosione localizzato, anche più generalizzato, sotto forma di slogan scritti sui muri o attacchi individuali che anti-ebraici e che comunque sono legati a quello che accade in Palestina.
Ma se on parle vraiment sérieusement, se on veut parler sérieusement de l'antisémitisme, des perceptions du juif dans les opinions publiques, de l'attitude, de la légitimité ou de la non-légitimité du voisin ou du citoyen juif dans les sociétés, je parle des sociétés européennes, nous sommes dans un recul permanent de l'antisémitisme. L'Observatoire, un des institutions les plus importantes, l'Observatoire en France, je ne sais plus le nom exact, l'Observatoire des phénomènes racistes et antisémites donne tous les ans des statistiques et des courbes qui sont claires. Il y a un recul au cours des 50 dernières années très net des perceptions, sentiments et positions antisémites.
Ma se vogliamo parlare seriamente di antisemitismo, bisogna prendere atto che tutte le statistiche che in questi anni sono state fatte testimoniano di un declino del sentimento antisemita. In Francia un'istituzione molto importante che è l'Osservatorio sul razzismo e l'antisemitismo dimostra esattamente questo, che c'è un declino verticale di questo sentimento.
Dernière question, 30% à mon ami Dov Khenin aux élections municipales de Tel Aviv.
Comment s'appelle?
Dov Khenin.
Khenin. E l'ultima domanda riguarda il mio amico Dov Khenin, che ha preso il 30% esattamente.
Alors c'est formidable, mais attention, on va pas rêver.
Attention, hein?
On va pas rêver.
Ah, è formidabile la cosa, ma non bisogna sognare, cioè evitiamo i sogni.
D'abord c'est Tel Aviv, Tel Aviv c'est pas Israël.
Innanzitutto Israele, Tel Aviv non è Israele.
Deuxièmement, c'est des élections municipales, et vous le savez par votre expérience aussi, qui n'ont rien à voir, qui sont toujours très différentes des élections nationales, politiques nationales.
In secondo luogo, sono delle elezioni amministrative, municipali, e voi lo sapete con la vostra esperienza diretta, queste sono molto differenti da quelle politiche generali.
Troisièmement, des élections qui n'ont pas du tout tourné autour des enjeux politiques israéliens, mais autour, même si on a parlé politique, mais autour de gestion municipale à Tel Aviv.
Et in secondo luogo, anche se si è fatto cenno alla politica generale, queste elezioni, la campagna elettorale è ruotata intorno ai problemi amministrativi di Tel Aviv.
Quatrièmement,
in quarto luogo,
Dov Khenin était un gars formidable.
Khenin est formidable.
Et ceux qui étaient contre lui, vraiment des nuls.
Et qui est contre est vraiment une nullité.
C'était vraiment, il avait... N'importe qui pouvait avoir un résultat pareil, même s'il n'était pas Dov Khenin contre ceux qui se présentaient contre lui.
Perché era molto difficile per chiunque avere un risultato maggiore di quello rispetto, insomma, Khenin era un nemico elettoralmente parlando difficile da sfidare.
Ceci dit, on va pas gâcher notre plaisir.
Ceci dit?
On ne va pas gâcher notre plaisir.
Ah, e questo non significa però che possiamo scambiare i desideri per la realtà.
Parce qu'il y a quand même.
Vabbè, insomma.
Parce qu'il y a des éléments importants et réjouissants dans le résultat électoral de Dov Khenin, au-delà des questions d'amitié.
Et questo ovviamente. Non, pardon, je vais répéter.
Qu'il y a, ces élections ont quand même exprimé des choses positives, très positives.
Ah. In tutti i casi, queste elezioni hanno avuto elementi di novità importanti e positive.
Un mouvement d'opinion dans la jeunesse de Tel Aviv. J'insiste, Tel Aviv, c'est pas Israël. C'est une ville beaucoup plus à gauche que le reste d'Israël. Mais quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit village, Tel Aviv. La jeunesse, une partie importante de la jeunesse s'est mobilisée dans une campagne militante sur des questions de société et aussi sur des questions de politique, par exemple les relations judéo-arabes à Tel Aviv.
Ci sono stati uno di questi elementi è stata la mobilitazione, una campagna elettorale dei giovani a Tel Aviv. Io insisto, Tel Aviv è molto più a sinistra rispetto al resto delle città israeliane e comunque in ogni caso è un dato importante perché Tel Aviv non è un piccolo villaggio e c'è stata questa mobilitazione della gioventù, dei giovani a Tel Aviv che ha riguardato anche argomenti di politica generale ma e soprattutto delle relazioni arabo-israeliane a Tel Aviv, arabo-ebraiche a Tel Aviv, pardon.
Et deuxièmement, Dov Khenin n'a pas caché une seule fois, y compris sur ses affiches électorales, même s'il s'est présenté sous le nom d'une liste locale sur des problèmes locaux, n'a jamais caché, ni à la télévision, ni dans ses meetings publics, qu'il est un dirigeant du Parti communiste israélien, se revendiquant de cette identité, la mettant clairement en avant, et ce qui est intéressant, c'est que cette jeunesse qui s'est mobilisée n'a pas été terrorisée par le drapeau rouge et par la faucille et le marteau et par le mot communiste, comme ça aurait pu être le cas il y a 20 ans.
Et tra l'altro,
mais c'est à Tel Aviv.
E d'altronde bisogna anche sottolineare che Dov Khenin non ha mai nascosto, a partire dai manifesti elettorali, la propria appartenenza, il proprio essere un dirigente del Partito Comunista, l'ha fatto alla luce del sole, ha rivendicato questa identità e la cosa che è interessante è che i giovani Tel Aviv non sono stati spaventati dalla parola comunista, dalla bandiera rossa e dalla falce e martello, come sarebbe potuto avvenire tempo prima, ma questa ancora Tel Aviv.
Prego.
Ok.
Forse della necessità di avvenire e di appropriarsi di una parte legata attraverso tutte le informazioni e le informazioni che
scusi, dopo alzare il tono della voce non riesco a sentirla, è un problema.
Sì, prima di approdare ad Israele, si è stato così determinante da far perdere il senso della misura al punto tale da utilizzare questa cosa come un risarcimento d'anno.
La mia question che si è possibile che malgré le persecuzioni ou à cause pardon de la dispersion une fois que les juifs ont rentré en Palestine entre guillemets et là on a interprété cette rentrée ces droits comme une sorte de risarcimento non mi sta venendo come risarcimento dal senso
di risurrezione
scusa Flavio, se non siamo in 18 è un casino come coup a payer de la partie de ce qui a provoqué la dispersion et la destruction des juifs en Europe. Il y a le mot français, mais honnêtement, je suis détruit, je ne trouve pas. Ok, tu as compris?
Ok. Prego.
Bon, très rapidement, parce qu'il se fait tard et les deux aspects de la question. Alors, le fait que quelqu'un, un individu ou un peuple ait souffert ne le rend pas immunisé contre la violence. Je dirais même, c'est le contraire, c'est souvent les enfants battus qui deviennent des parents batteurs.
Il fatto che che un popolo sia vittima di persecuzioni e violenze non è un antidoto sicuro, anzi generalmente il contrario, molte volte sono i bambini colpiti, violati, che diventano persecutori e genitori violenti.
Maintenant, est-ce que l'histoire juive récente a un impact sur la conscience collective israélienne? Certainement.
È sicuro che la storia recente degli ebrei ha un impatto sulla popolazione israeliana, ebraico-israeliana?
Certainement. Mais tout dépend comment on raconte l'histoire.
Ma tutto dipende da come si racconta la storia.
E là c'è déjà plus l'histoire, mais c'est déjà, je dirais, le système éducatif utilisant l'histoire éducatif, la télévisione, les médias, la littérature et l'école.
E in questo senso è importante come il sistema educativo nel suo complesso dei mass media a scuola, passando per la letteratura e quant'altro, utilizza la storia.
Alors, pour terminer un peu dans un esprit familial, j'ai eu la chance de connaître mes quatre grands-parents, ce qui pour un juif né juste après la guerre en Europe était assez rare.
Ho avuto la fortuna di poter conoscere i miei quattro nonni, cosa che per un ebreo nato in Europa giusto appena dopo la Seconda Guerra Mondiale è una cosa rara.
Donc j'ai connu mon grand-père paternel et mon grand-père maternel et j'ai eu de chacun d'eux un héritage très différent.
Io ho conosciuto quindi mio nonno materno e mio nonno paterno e da entrambi ho ereditato qualcosa di molto differente.
Les deux ont vécu l'occupation nazie en France.
Tutti e due hanno vissuto l'occupazione nazista in Francia.
Mon grand-père paternel me disait quand j'étais enfant et disait à mes frères et sœurs.
Mio nonno paterno diceva a me e ai miei fratelli e sorelle che eravamo in Francia
che la leçon qu'il faut tirer de la tragédie des juifs pendant
l'époque du nazisme.
Che la lezione da trarre dalla tragedia degli ebrei durante la occupazione nazista in Europa,
c'est qu'on ne peut faire confiance à personne.
Che non si può, è quella di non poter avere fiducia in nessuno.
Ni la loi, ni le droit, ni la République, ni les droits de l'homme, ni personne ne viendront à notre secours, ne sont venus ou ne viendront à notre secours lorsque nous sommes confrontés au racisme, à l'expulsion, à l'antisémitisme.
Et in questo senso nessuno ci viene in aiuto, ci verrà mai in aiuto, ci è venuto e ci verrà in aiuto, che sia il diritto, che siano le leggi, che siano le persone.
Pardon, je ne l'ai più.
Que personne, on ne peut compter que sur soi-même.
Et que noi non possiamo che contare su noi stessi.
J'ai aimé mon grand-père paternel, je respecte mon grand-père paternel et j'ai entendu son testament.
Io rispetto io amato mio nonno paterno, ma ho capito il suo testamento morale.
J'avais un autre grand-père, mon grand-père maternel, qui lui aussi a vécu l'occupation. Il a vécu comme employé des chemins de fer, de la compagnie des chemins de fer français, toute la guerre, comme juif, avec l'étoile. Et lui m'a donné un autre héritage.
Ho conosciuto anche mio nonno materno, anche lui ha vissuto in Francia l'occupazione nazista, ma l'ha vissuta come operaio delle ferrovie francesi con la stella gialla.
E lui nous disait à mes frères et sœurs et à moi-même, si nous sommes vivants, ta grand-mère et moi, et tes tantes et ta mère, c'est parce qu'il y avait des milliers de Français qui n'étaient pas des grands héros de la résistance, mais qui par ailleurs n'étaient pas des gens mauvais.
E lui diceva a me, ai miei fratelli e sorelle, se noi siamo vivi, io stesso, tua madre e i tuoi zii, è grazie al fatto che migliaia di francesi che non sono stati degli eroi ma non erano neanche cattivi.
Des gens normaux qui nous ont protégés.
Gente normale che ci ha protetto.
Et donc il y a une chose qu'il faut que tu apprennes, c'est que quand d'autres groupes seront dans le racisme et l'exclusion, tu devrais être à leur côté.
E quindi una cosa che tu devi capire, devi apprendere, è che quando altri gruppi saranno vittime di razzismo ed esclusione, tu devi essere al loro fianco.
Voilà deux héritages totalement contradictoires. De la même expérience.
Due eredità della stessa esperienza assolutamente contraddittorie tra loro.
Je respecte mes deux grands-parents.
Rispetto i due miei nonni.
J'ai pris leurs deux héritages.
Prendo le sue, assumo le loro due l'eredità.
Mais lorsque j'étais en âge de choisir, j'ai choisi de suivre mon grand-père maternel.
Ma ho deciso di seguire mio nonno materno.